Bonjour, c'est Anne-Elisabeth. Vous écoutez C'est à vous la suite, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
C'est à vous en direct jusqu'à 20h55 avec Émilie, Patrick, Pierre et Christophe Maury, notre chef qui vient de Dordogne, propriétaire de l'hôtel-restaurant L'Hôtel de Bouillac. C'est à Montignac-Lascaux avec un plat ce soir qui mélange la terre et la mer.
C'est ça. En fait, c'est un plat à base d'esturgeon de Neuvic, bio. Avec une mousseline qui est faite au safran, un jus d'étrille au safran aussi d'ailleurs, et après des pieds de cochon qui sont panés et frits.
Et qui
sont au four actuellement.
Un four qui bip.
Voilà, c'est ça.
C'est pas une alerte. Tout va bien, tout est sous contrôle. Mais il bip en permanence, ce four. Hein. On
c'est
a des frayeurs.
Ah, bah,
oui, on l'entend régulièrement.
J'appuie des fois, je suppose.
Bon, c'est pas grave. On contrôlera ça dans une autre vie. Merci, Christophe Maury.
Merci.
C'est une mission qu'on ne confie pas à n'importe qui.
Je vous demande d'accueillir, bien sûr, pour ce 19e Téléthon, le parrain Yannick Noah et Florence. Tiens, normalement. Yannick, on emploie le mot combat-guerre, qui sont généralement des mots que l'on n'aime pas entendre, mais là, quand c'est pour une cause comme ça...
C'est une image, disons, c'est un combat de tous les jours, c'est un combat de tous les jours pour les enfants, bien sûr, pour les familles, pour l'entourage, au quotidien. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une journée tellement importante, c'est un moment tellement important. Bien sûr, on est à la télévision, mais enfin, derrière, il y a des gens qui souffrent et qui ont vraiment beaucoup d'espoir, parce que ce soir et demain, c'est très, très important ce qui se passe.
En 2005, Yannick Noah était le parrain du 19e Téléthon. Demain, samedi, c'est le plus jeune parrain de l'histoire qui appellera au don au 36-37, Kev Adams, qui depuis 10 ans s'investit dans cette cause.
J'ai écrit un petit poème, si tu me permets de le lire, pour le Téléthon. C'est pas du tout drôle, c'est un poème. Quel que soit le montant de votre don, nous vous remercierons. Et surtout, appelez le 36-37 pour qu'un jour, on puisse tous ensemble faire la fête. Pour conclure ce poème, j'aimerais vous dire que je vous aime. Et cette année pour le Téléthon, soyez gentils. Faites un don.
Bravo, merci, Kev. Donner 36-37, voilà, c'est nos poids respectifs, 36 kilos, 37 kilos.
Exactement, c'est sa pointure aussi. Kev Adams fait du 36-37, il hésite, il sait jamais. Quand il va dans un magasin de chaussures, il dit 36-37.
Kev Adams et Yannick Noah sont ce soir nos invités.
Bonsoir messieurs.
Bonsoir,
bonsoir Yannick. Bienvenue. Salut Kev. Bienvenue à tous les deux. Comment ça va?
Ça va trop bien.
C'est pas métier tout là.
Où est-ce qu'on se met? Comment ça
va? Ça n'a pas été décidé à
l'avance. Yannick, évidemment, honneur à toi, bien sûr. C'est gentil.
Mais voilà. On est ravis de vous réunir ce soir. Yannick, à l'occasion de votre nouvel album, La Marfée. Et de la tournée qui va s'achever bientôt. Oui. Voilà, des dates en décembre. Et puis Kev, pour une tournée qui démarre avec un nouveau spectacle, Miroir, mais aussi pour évoquer le Téléthon.
Quel bonheur de vous voir, Elisabeth. C'est vrai, à chaque fois que je vais ici, j'ai l'impression de venir voir ma famille.
Eh ben, on est ravis. Bienvenue, bienvenue en
Comment
famille.
Comment ça va, tata?
Ça va, Yannick, on l'appelle tonton, donc ça
va. Mais attends, on m'appelle papy surtout.
Oui, papy, papy.
C'est tonton,
papy,
c'est,
Yannick.
C'est la tante jeune dynamique, sympa, quoi.
Ah oui, d'accord.
Ah oui.
Je ne suis pas dans la vieille tante rabat-joie.
Pas du tout, non, non,
pas du encore. Tout. Le Téléthon, un mot sur le Téléthon, dans lequel vous êtes tous les deux très investis. Kev, vous êtes hyper touché quand vous demande d'endosser ce rôle, parce que vous êtes. Je suis peut-être tata, mais vous êtes un petit minot, quoi.
Bah, je suis. Au-delà de touché, c'est complètement dingue d'avoir la chance d'endosser ce rôle. J'ai eu la chance d'aller visiter les chercheurs, les enfants, les ados, les familles. Je trouve que c'est un moment de solidarité exceptionnel, unique au monde, qu'on a la chance d'avoir en France. Et j'ai hâte de ces deux jours qui démarrent demain pour qu'on optimise à fond les dons. Ça a été deux années compliquées pour le Téléthon, l'année dernière et l'année d'avant, puisque évidemment, en sortie de Covid, c'était plus complexe pour les gens de se réunir. Et là, les gens vont se réunir dès demain dans toute la France pour justement... récolter un maximum de dons pour aider ces familles.
C'est bouleversant. Dès le début de votre carrière, vous avez accepté d'aller voir des enfants à l'hôpital. Vous en êtes ressorti vraiment... changé. Mais vous dites que c'est un devoir. Pour un artiste, un devoir.
Bah, moi, quand on m'a proposé ça, pour moi, il n'y a pas de cas où on peut refuser ce genre de mission. C'est aussi pour ça qu'on fait ce métier, pour donner du bonheur, du plaisir aux gens, pour leur permettre de s'évader le temps d'un instant. Que ce soit... en écoutant de la musique ou en écoutant des sketchs ou en regardant des films. Et puis quand on voit ce que ces gens font, on se sent tout petit, on se sent presque inutile. Quoi. C'est dingue ce que ces gens font, ils commettent l'impossible. C'est ça que je répète à chaque fois, ils ont autant de chances de trouver des solutions à ces maladies que de gagner au loto et pourtant ils y parviennent. Je trouve ça dingue en fait, je trouve ça complètement dingue ce qu'ils font. J'ai un respect profond pour ces gens, pour ces chercheurs, pour le Généthon qui passe parfois des journées, des nuits entières à chercher des solutions à des maladies qui sont encore une fois, des maladies rares et qui sont, des, pour la plupart de ces enfants, de ces ados, c'est des gens qui sont laissés sur le bas-côté par les grands groupes pharmaceutiques, puisque d'un coup, on se dit, ben, cette maladie n'est pas assez répandue pour qu'on mette de l'argent là-dedans et qu'on trouve des solutions. Donc d'un coup, il y a des gens, des enfants, des ados qui pourraient être nos cousins, nos enfants, nos petits-enfants, qui sont laissés sur le côté de la route sous prétexte qu'il n'y a pas de business derrière ça. Et moi, quand j'entends ça, ça me scandalise et je trouve ça dingue que le Téléthon existe pour justement pas laisser ses enfants sur le bord de la route.
Yannick, vous avez rencontré une jeune femme en 2005 avec laquelle vous avez liée, nouer une relation. Elle était à nouveau à vos côtés, c'était en 2014.
Yannick Noah, c'est mon médicament, c'est ma force, il fait tout pour moi. Avant que je le connaisse, je me laissais beaucoup aller avec ma maladie, j'en avais un peu marre, c'était ras-le-bol. Et quand je l'ai connu, il a été tout de suite ma force morale.
Elle me donne aussi beaucoup de courage. Elle me donne du courage parce que je l'ai vu grandir, je la vois s'épanouir, je la vois se bagarrer, on parle souvent de ça. Et je la vois, je l'encourage pour qu'elle chante, parce que là, c'était au début.
Mais c'est
pas
mal.
Et elle est timide et en fait, elle chante très, très, très bien.
Bientôt dans les chœurs avec Yannick. Hein.
Vous êtes un médicament, Yannick Noah. D'où l'importance, en tout cas, de la présence des artistes pour accompagner.
Oui, on essaie d'être utile. C'est vrai que face à ce type de situation, surtout quand on a des enfants, on est forcément plus sensible. On voit les parents, on voit tous les chercheurs. Enfin, forcément, à partir du moment où cette rencontre, elle était très importante. Et puis voilà, on rencontre des jeunes et on a ce pouvoir magique, mais tout en toute humilité, de pouvoir comme ça transmettre quelque chose, une petite énergie. Et des fois, c'est pas grand-chose, ça peut être un sourire, ça peut être un petit bisou, un selfie. Et puis des fois, ça peut aller plus loin parce que forcément, on s'attache. Et c'est une belle aventure. Et bon, bah, je suis fier de. On est très fier de voir ces enfants qui sont de vrais bagarreurs.
2, 3 décembre, à partir de demain, et samedi, 36, 37, c'est sur France 2
et France 3.
Et France 3.
Hein. Ouais, sur tout le groupe France Télévisions. Et je suis motivé à fond pour qu'on casse les records, qu'on récolte un maximum d'argent et qu'on arrive à aider ces familles concrètement. Quand on les rencontre, ça change tout. Moi, j'ai l'habitude de voir le Téléthon à la télé comme des millions de Français chaque année et tout. Mais quand tu vas chez les gens et que tu as un môme de 11 ans qui te dit... si le Téléthon trouve une solution à ma maladie, plus tard je ferai ça, plus tard je ferai ci. C'est bouleversant, quoi. Il n'y a même pas besoin d'être spécialement sensible, c'est juste humain, quoi. Si t'es humain, t'es bouleversé par cette relation et par ces gens-là. Et donc j'espère profondément que ça va être un week-end historique pour le Téléthon.
La dernière fois que vous étiez venu nous voir, Kev, c'était pour Maison de retraite, votre film qui a été un énorme succès, plus de 2 millions d'entrées, alors que ce film avait absolument tous les vents contraires
c'est clair.
Face
c'est
à lui.
Seul Français à avoir dépassé les 2 millions l'an dernier. Hein.
Ouais, avec Gérard,
cette année. Ouais.
Avec Gérard Depardieu, Daniel Prévost et Mylène de Montjoie qui étaient présents.
Ça m'a assommé. Je sais ce que vous allez dire, je l'ai appris cet après-midi et ça m'a assommé, vraiment. Pardon, je vous ai coupé la parole.
Mylène de Montjoie, dont on a appris aujourd'hui la disparition, et on voulait lui rendre hommage ce soir.
À 87 ans, oui, c'est une figure populaire et très attachante qui disparaît parce qu'elle a eu la chance extraordinaire et le talent de participer à 7 ou 8 très grands succès au cinéma sur une période de presque 60 ans. De Fantomas, 1964, à Maison de retraite cette année, en passant par la série des campings, le 36 Quai des Orfèvres d'Olivier Marchal, où elle avait retrouvé le chemin des studios il y a une quinzaine d'années, obtenu une nomination au César d'ailleurs, Fantomas, donc évidemment, il n'y a pas un téléspectateur qui n'ait vu en Hélène, reporter, photographe, fiancé à Fandor Jean Marais, et aux prises avec l'horrible Fantomas.
Mylène de Bonjour, qui vous a envoyé cette très jolie robe?
C'est Fantomas.
C'est Fantomas,
oui.
Et pourquoi?
Bien parce que vous savez que je suis toujours photographe, mais je tombe dans les filets de Fantomas. Et Fantomas, depuis le premier film, est amoureux de moi. Et à un moment donné, il m'a complètement à sa merci et je dois lui obéir complètement. Et alors, je reçois une invitation pour aller à un bal avec une robe et je dois m'y rendre. Et c'est ce qui entraîne Fandor, Jean Marais, c'est ce qui entraîne De Funès à ma poursuite. Ils arrivent à me sauver. C'est pour ça que nous nous retrouvons tous, moi en Scheherazade, Louis en Napoléon et Jean en Arsou.
Fantomas, ce sont quelques millions de spectateurs à l'époque dans les salles, des dizaines de millions de spectateurs en Union soviétique où le film, la série est devenue culte, et alors des centaines de millions à chaque passages télé depuis, parce que ça n'arrête pas, évidemment. Donc Fantomas, Jean Marais, Mylène de Mongeau et le commissaire Juve de Funès, dont Mylène nous parlait. Elle évoquait la chance qu'elle a eue de tourner face à lui et de jouer face à lui sur ce plateau.
Moi, de Funès, c'est mon Dieu, c'est celui auquel je pense à chaque fois que je travaille, en me disant, est-ce que j'ai son rythme, est-ce que j'ai son punch, est-ce que j'adore cet homme-là.
Parce que vous avez eu plein de scènes
films,
dans
ça,
les...
Trois films, ça a fait beaucoup.
Plein de scènes dans les Fantomas, évidemment.
Oui.
Et donc...
Et en plus, si nous sommes encore là aujourd'hui, comme dit Galabru, c'est grâce à lui. Parce que s'il n'y avait pas lui, de Funès... Je pense qu'on serait déjà à moitié oublié, parce que quand on voit à quelle vitesse ça va, vous rendez compte, je rencontre parfois des jeunes filles, je leur dis, quand j'étais petite, j'étais amoureuse de Gérard Philippe, elle me dit, c'est qui ça ?
Eh oui.
Vous étiez là, Kev Adams, à ses côtés, et pour ce dernier succès, grand succès public auquel elle aura participé, Maison de Recettes, on va voir un extrait, vous êtes tous les deux dans la scène.
Oh là !
C'est quoi ?
C'est des recettes de grand-mère. Vinaigre et thym. Ça cotérisera plus vite.
Merci. Je vous revaudrai ça.
Arrête de croire que quand les gens font quelque chose, c'est parce qu'ils ont besoin de quelque chose en retour. On peut juste être gentil. Tu crois pas? D'ailleurs, ça te ferait pas de mal à toi d'être un peu gentil de temps en temps. Qu'est-ce que tu en penses?
Vous avez raison. Ah, c'est bouleversant, ça me fend le cœur. C'est une femme avec qui j'ai créé un... Enfin, on a noué un lien sur le tournage qui était génial. Elle m'a envoyé des films à regarder. Elle m'a envoyé un texto il y a encore deux semaines et demie de ça, puisqu'on est en train d'écrire la suite de Maison de retraite. Et donc, évidemment, elle avait un rôle important dans la suite, comme elle avait un rôle important dans le premier. Et j'ai pris ça comme un coup sur la tête. J'ai appris ça cet après-midi et j'ai... En fait, c'est fou, mais quand on écrit les films et quand on a la chance de faire vivre des personnages, je vous jure qu'on a l'impression qu'ils sont immortels, en fait. C'est-à-dire que on doit tourner la suite en avril. Je parlais encore avec Mylène il y a deux semaines. Elle me disait, génial, pour mon personnage, est-ce que tu penses que c'est possible qu'il ait un chien? Je lui dis, pourquoi pas? Écoute, ça te fait plaisir, on va lui rajouter un chien et tout ça. Elle me dit, ah ouais, ça me ferait super plaisir. C'est-à-dire que c'est fou, elle avait 87 ans. Il n'y a aucun moment dans ma tête où j'ai envisagé le fait qu'elle ne puisse pas être avec nous pour la suite. Et d'apprendre ça aujourd'hui, ça m'a cassé en deux, quoi. Je ne peux pas vous dire plus que ça. On va faire le meilleur film possible pour lui rendre hommage et on va essayer de faire en sorte de lui rendre hommage aussi dans le film, puisque je sais à quel point elle était fière de ce film. Elle était venue sur ce plateau pour en parler avec moi. Et je vais essayer aussi de continuer à lui rendre hommage tout au long de ma carrière, puisque c'est des gens comme ça aussi, moi, qui m'ont donné envie de faire du cinéma. J'ai eu la chance, grâce à elle, de voir un paquet de films qu'elle a fait, puisqu'à chaque fois, elle m'envoyait « Mais t'as pas vu ça ? Mais t'es complètement inculte. Mais si t'as pas vu ça, tu connais rien au cinéma. » Donc, elle m'envoyait des listes de films comme ça à regarder. J'en ai regardé un paquet. Et voilà, Mylène, on t'oubliera pas. Moi, je suis très ému aujourd'hui. Et j'espère qu'on se souviendra longtemps de cette immense actrice.
Merci, Kev Adams. Quelques notes de Miles Davis, maintenant dans l'œil de Pierre.
Oui, devant vous deux qui aimez la musique, et vous qui en faites beaucoup, Miles Davis, ça fait partie de ces personnages de la musique dont on connaît le nom, même si on n'a jamais entendu un morceau en entier. Mais je crois aussi que c'est un personnage tellement important dans l'histoire de la musique et du jazz qu'il faut un jour ou l'autre saisir l'occasion de passer un moment avec lui. Même si on n'en devient pas dingue, on comprend pourquoi il a tant compté. En 75, dans sa carrière, il a fait une pause. Il fallait qu'il se repose un peu parce qu'on peut dire qu'il se laissait aller à pas mal d'excès. Et puis il est revenu en 80, à un moment où la pop musique, dit-on, lui a donné envie de reprendre sa trompette. Je fais le geste de la trompette, c'est idiot. Et de cesser de se traîner. Je ne sais pas pourquoi il lance ça. D'accord. Bref, il est revenu en 80 parce que la pop lui plaisait. Et dans le volume 7 qui vient de sortir de ce qu'on appelle les bootleg séries, c'est-à-dire les séries pirates de Miles Davis, qui vient de sortir, et je voulais vous en parler avant Noël, on retrouve ces morceaux de la pop qui lui ont donné envie de rejouer de la trompette, dont ce morceau de Cyndi Lauper.
Ah voilà.
Ah c'est bon.
Ça voilà.
Mais avant l'heure, c'est pas l'heure.
Et Miles en a fait ceci. On a juste le temps d'une évocation, c'est pour ça que je vous passe d'abord l'original pour que vous connaissiez bien ce qu'il arrive à en faire. Pareil pour Tina Turner. Et par Miles. Il y a 1h20 d'inédit de Miles Davis dans ce coffret qui vient de sortir en 3 CD ou 2 vinyles, comme selon votre équipement. Vous verrez, il y a un son inégalé, on le reconnaît bien. Et dans cette interview aux Enfants du Rock, il soulignait que c'était aussi ce son un travail de recherche.
Have a sound that other trumpet players don't have. Because the sound that I like when I was 12, 13, is a round tone. People walking around can memorize. And they recognize my sound, like Frank Sinatra's voice, or James Brown, you know? It's no shortcut. White people give the black musicians in America the attitude that they don't have to practice. You got it, it's natural. It's not so. You have to practice and you have to study. That's the reason a lot of musicians complain.
Moi, j'adore ce mec parce qu'il dit un son comme le mien, il n'y en a pas d'autre. Mais putain, faut bosser.
Ah ouais.
Il dit ça. C'est magnifique. Belle leçon.
C'est rare de le voir parler, en fait.
Et oui, en plus.
C'est une interview, c'est rare. Et puis bon, il a l'air détendu. C'est très rare parce qu'il était très mystérieux, justement. C'est vrai qu'il communiquait uniquement avec sa musique. Et quand on voit cette musique, il y a un côté quand même assez mystique dans sa musique et même ses concerts. C'était comme des messes. C'est vrai que le voir parler, c'est bien.
Et donc, ce coffret vient de sortir. Bootleg, Miles Davis, numéro 7.
Merci.
Voilà, les enfants.
C'est l'heure du vu, ce qu'il ne fallait pas rater hier à la télévision.
Contre la Tunisie lors du deuxième match. Et il est parti ce ballon. Et Griezmann ! Oh, c'est terrible pour la Tunisie !
En Iran, des scènes de liesse inattendues hier soir après l'élimination au Qatar de l'équipe nationale par les États-Unis, 1-0. Une défaite célébrée dans la continuité, bien sûr, des manifestations contre le pouvoir.
On n'ira pas plus loin. Monsieur Kangler qui libère tout le monde sur cette... Sur ce but, Antoine Griezmann, sur cette égalisation de dernière seconde un partout, on revient bien sûr avec toutes les réactions de ce match, l'élimination de la Tunisie, mais surtout la qualification des Bleus avec la première place en prime dans ce groupe. Rendez-vous en huitième de finale, rendez-vous surtout derrière avec le MAG. Et Denis Brognard et toutes les réactions, à tout de suite, restez avec nous. Denis, c'est à vous.
Eh bien, c'est fait. La baguette est inscrite depuis ce matin au patrimoine immatériel mondial de l'UNESCO. C'est tout un savoir-faire et une culture française qui ont été distingués.
Le but marqué par Antoine Griezmann pour l'équipe de France a été annulé, refusé, ce qui fait que la Tunisie l'emporte 1-0.
Oui, Denis, et on était persuadés que c'était terminé.
Elisabeth Borne appelle à remettre le masque dans les transports alors qu'une nouvelle vague de Covid sévit. Le nombre de cas positifs remonte ainsi que les hospitalisations.
Rebond de l'épidémie et retour des fake news autour du virus. La faute à Elon Musk qui depuis le 23 novembre dernier n'applique plus sur son réseau social Twitter le règlement concernant les informations trompeuses sur le Covid-19.
Et je vous dis qu'il y a plus de conneries dans la presse que sur Twitter maintenant.
Oui, mais sauf qu'on peut, porter plainte contre la presse,
non,
diffamation, on ne peut pas porter plainte. Ah bah si, il y a des procès pour diffamation. Aller porter plainte contre une fake news sur Twitter, c'est beaucoup plus compliqué.
Gilles.
Ben non, Géraldine, c'est pas de la diffamation, ce sont des propos dirigés, sous couvert de journalistes et de l'éditorialisation. Regardez tout ce qui s'écrit sur Cyril, c'est de la mauvaise foi, donc c'est pas attaquable.
Est-ce qu'on va remasquer tout le monde? Il semble que ça va être très difficile. Moi, dès que je mets le mot masque sur Twitter, je reçois des menaces de mort. Et donc...
Vous êtes sérieux?
Ouais, bien sûr.
Des menaces de mort?
Ouais.
Qu'est-ce qu'est une fausse information sur le Covid? On ne sait pas, pourquoi est-ce que ce serait plus faux que la voix officielle qui nous dit il faut se vacciner, etc. Ouais. Je trouve très bien qu'il y ait un contrepoint sur ce sujet.
Une nouvelle menace Covid alors que l'épidémie de grippe est officiellement déclarée depuis aujourd'hui et que la bronchiolite met déjà les hôpitaux sous tension. Triple peine pour les soignants. 10 000 d'entre eux crient leur colère ce matin dans une lettre à Emmanuel Macron.
L'épidémie annuelle de bronchiolite s'est transformée en un mauvais remake de la pandémie de Covid-19. Sauf que cette fois, il n'y a pas d'alternative pour sauver l'hôpital.
Vous n'êtes pas apparu pour assurer les soignants de votre soutien.
Votre silence est assourdissant.
De la même façon qu'il y a un lien entre les messages sur le Covid et les comportements des gens dans la vraie vie, il y a un lien démontré entre la haine en ligne et la haine criminelle. La preuve par Trump, c'est l'éditorialiste des Échos, vous l'avez peut-être vu, Jean-Marc Vittori, qui relevait hier deux études américaines sur les conséquences des tweets racistes de Donald Trump.
Tu peux le faire.
Printemps 2020, quand Trump vilipendait le virus chinois. 6 messages en ce sens entre le 16 et le 18 mars. Le 19 mars, l'Amérique enregistre un pic de recherche sur Google de l'expression virus chinois, souvent associée au nom de Trump. Et le 20 mars, un pic d'agression contre les Asiatiques, deux fois plus nombreuses que la veille.
L'assaut du Capitole, c'était il y a près de 2 ans. Pour la première fois, un des assaillants est reconnu coupable de sédition par la justice américaine.
Sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement sur l'ensemble du projet de loi de financement de la Sécurité sociale.
49.3, on nous fait passer des choses quand même
en force.
Quand même, oui. Je trouve. C'est pas exactement une dictature, mais enfin, on sent qu'il y a une attirance vers la dictature.
Une attirance.
C'est-à-dire à la fois de ceux qui nous gouvernent et nous qui sommes gouvernés, peut-être aussi qu'on est quelque part attirés. La dictature.
Bah ça a bien marché, ça marche bien en général.
Toujours un grand succès.
Ça a toujours un grand succès.
L'ouvrier avec une. On lance le courant et ça marche, ça fonctionne. Je prends toujours de la défense des ouvriers, je prends toujours de la défense de ceux qui subissent. J'avais le dégoût des hommes politiques, le dégoût de la bourgeoisie. C'est toujours la même rhétorique, hein. je ne varie pas d'un iota. Indigné le matin et puis en colère le soir, ou l'inverse, quoi.
J'ai toujours l'impression dans le monde dans lequel on vit, ce fameux néolibéralisme qui est le nôtre, que c'est une attaque générale sur les liens. Voilà, les liens, bien sûr, au monde, c'est-à-dire les liens au cosmos, les liens à la nature, les liens au vivant, les liens aux animaux, aux plantes, etc. Mais le lien aux autres aussi, aux autres humains, et puis le lien à nous-mêmes. Même la construction du rapport à soi, je trouve qu'elle est complètement altérée par les nouvelles technologies.
Si je vous entends bien, ça veut dire qu'on est humain qu'ensemble.
Un chauffeur de car scolaire vient d'être licencié parce qu'il ne respectait pas les arrêts imposés. Il déposait des enfants au plus près de chez eux pour des raisons de sécurité et sans dévier de son itinéraire.
Il fait nuit les matins et il fait nuit les soirs. C'est pas du tout pratique, il n'y a pas de trottoir, il n'y a pas d'éclairage. Les parents considèrent que ça peut être tout à fait dangereux aussi.
Cette fois Météo France, on est sûr, 2022 est l'année la plus chaude jamais enregistrée.
Maintenant, la seule croissance que nous supporterons sera celle des arbres et des enfants. Maintenant, nous serons le vivant qui tisse et qui bruisse, le vivant qui se défend.
C'est l'histoire d'un retour aux sources à Etoudi, un village devenu un quartier d'Yaoundé au Cameroun, là où il a grandi et où tonton Yannick devient papa Yannick, chef de village à son tour, comme l'étaient son père et son grand-père.
Hey, on est beau, hein. On est quand même un peu beau.
Là, ils se prennent en photo avec l'ancien tennisman ou avec le chef de village.
Avec leur frère. On dit quoi? Hein? Ça, c'était ma chambre. C'est venu la classe. Ça va les enfants? Ça va bien, ils travaillent bien. On vous embête pas longtemps parce que vous savez qu'ici c'était ma chambre quand j'étais petit. Hein. Oui, c'était ma chambre. Donc j'espère que ça va vous porter chance. Voilà, c'est ici que je dois être, quoi. C'est mon destin d'être ici. C'est une vraie responsabilité, mais je suis un bagarreur.
Ce retour aux sources, Yannick, vous le chantez dans le premier titre de votre album avec la chanson « Back to Africa », « L'autre moitié de moi, ton soleil m'a manqué ». C'était une évidence d'aller retrouver cette partie de vous que vous n'aviez pas assez explorée.
Je sais pas si c'était une évidence, mais c'est voilà, ça fait partie de parcours de voilà de ma vie, mon destin. Voilà,
il y aurait eu un bout chercher. D'inachevé si vous y étiez pas retourné.
Ouais, un peu mon enfance, une enfance voilà trop vite laissée, une adolescence bâclée, voilà, s'est retrouvé un petit peu des appuis. Oui, une partie de moi que j'ai laissée beaucoup trop tôt et qui est ma partie, la partie de papa, la partie de mon enfance, ma partie noire. Toute cette partie que pendant 50 ans, ben, j'ai mis de côté. Et c'est bien d'arriver à mon âge et avoir encore ce projet pour trouver un sens un petit peu à tout ça. Quoi, parce que moi, ben, je suis né de culture, issu de deux cultures, deux pays, deux couleurs. Et ouais, j'ai passé 50 ans de ma vie en France, aux États-Unis, sur la route. Et des fois, ouais, en rentrant au Cameroun, je ne me sentais pas complètement chez moi. J'avais un petit peu oublié le dialecte. Vous voyez, là, je parle avec cet accent qui est naturel. Hein, quand je me retrouve là-bas, je parle un peu comme ça. Donc, c'est naturel. Mais voilà, retrouver une partie de mes racines.
Un chef de village qui a reçu cet été une visite très officielle, celle du président français Emmanuel Macron, auquel vous avez offert, entre autres, un concert. On n'a pas dû souvent l'appeler Tonton Manu. Hein.
Non, mais voilà, c'est... on est au village, les Camerounais sont très hospitaliers. Et voilà, c'était l'occasion de voilà, recevoir le président de la France.
C'était pas rien que ce soit parce que vous êtes souvent allé à l'Élysée, vous avez été souvent reçu au palais présidentiel du Cameroun. Mais là, le fait qu'un chef d'État français vienne et que la première chose qu'il fasse en arrivant, c'est d'aller s'incliner sur la tombe de vos ancêtres.
Oui, mon grand-père a fait la guerre pour la France et donc a eu la Légion d'honneur. Y a un lien forcément très profond entre le Cameroun et la France, ne serait-ce que de par ma vie, l'amour de mes parents que j'ai vu. Donc voilà, je suis toujours un peu entre les deux. J'ai ce sentiment que mon rôle, c'est de rassembler les deux. Voilà, les cousins français, les cousins camerounais, amener les potes camerounais en France, et les Français au Cameroun, c'est voilà. Et ce côté, il y avait un côté symbolique et très puissant du fait que, voilà, c'est pas qu'il est arrivé au Cameroun, c'est pas qu'il est allé à Yaoundé, c'est qu'il est venu à Etoudi où je suis chef de village. Et en tant que chef de village, bien entendu, quand le président de la République française vient, c'est un honneur pour tous les gens du village.
Votre rôle de chef de village, c'est entre le guide spirituel et celui de facilitateur de vie quotidienne auprès des malades, des plus âgés, mais aussi des enfants, avec notamment, on a vu les images d'écoles créées par votre maman et qui accueille aujourd'hui 500 petits élèves. Une chanson de l'album fait écho à l'importance de l'éducation, Hey Sister, avec un message adressé aux enfants et à leurs parents, lis parce que les livres délivrent.
Les livres délivrent, ouais, c'est la meilleure façon de résister, c'est d'avoir l'éducation. Et c'est vrai que c'est plus facile de manipuler des illettrés, des idiots, que des gens qui ont une culture, en tout cas qui connaissent ne serait-ce que déjà l'histoire. Donc oui, c'est très important. Et c'est une chanson qui me tient à cœur. Bon, c'est un très beau message. C'est encore Robert qui m'a écrit cette belle chanson.
Oui, Robert Goldman.
Mais voilà, oui, ça a un sens, parce qu'en tant que chef, justement, je me rends compte de l'importance de l'école à l'intérieur de mon village. Il y a 500 gosses, on aimerait agrandir l'école, et c'est vrai que c'est ce qui me tient le plus à cœur, en fait. Et ce qui est amusant, c'est que cette école qui est au sein de mon village au Cameroun a été créée par maman, qui est française. Donc il y a toujours ce lien, on s'en sort pas, quoi.
Kev, puisqu'on vient de voir la chambre d'enfant d'Yannick, parlez-nous de votre enfance à vous, déterminé à courir les castings, à vous faire connaître et à vous montrer. C'est la révélation après avoir vu DiCaprio.
Ouais. Non, mais déjà, un mot sur Yannick. Vous ne me le demandez pas, mais je le dis quand même. Je suis un fan comme tous les Français. Je trouve ça incroyable ce que ce mec fait. La force avec laquelle il le fait. Vous savez, quand on veut être acteur, c'est pour vivre plein de vies différentes. En tout cas, moi, c'est ma volonté. C'est de me dire, dans chaque rôle, je vais être quelqu'un d'autre, avoir une autre vie. Et je trouve que lui, il le fait dans la vraie vie. C'est-à-dire qu'il a plein de vies différentes. il le fait avec une douceur, une classe, une élégance. Enfin, je veux dire, c'est important aussi pour moi de le dire parce qu'il est tellement humble, tellement classe à chaque fois. C'est une des personnalités préférées des Français. Et je trouve qu'il a ce truc. Moi, je l'écoute parler. J'ai envie d'aller dans son village avec lui.
Mais viens.
Et
mais
je t'ai vu, j'ai envie.
Et mais là-dessus, vous ne trouverez pas de contradiction sur le plateau.
Non, non, mais de toute façon,
on est d'accord.
Non. C'est un moment de concorde.
C'est fascinant de voir ça. Je l'ignorais. Je ne savais pas que tu étais chef de village et tout ça. Et pourtant, je suis fasciné par les mille vies qu'il a eues et à chaque fois avec un succès de dingue. Je l'ai suivi tennisman tout petit, ensuite je l'ai suivi chanteur, j'ai suivi son fils en NBA. Enfin, je trouve ça fou en fait, c'est dingue de vivre tous ces trucs-là. Et aujourd'hui, je le vois chef de village au Cameroun. Enfin, c'est plus fou que la saga Harry Potter, quoi. C'est une dinguerie, quoi.
Vous êtes pas mal non plus quand même. Vous êtes arrivé.
Rien de comparable avec Yannick Noah.
Non, mais vous êtes arrivé au point où vous vouliez être enfant. On peut le dire comme ça.
Ouais. Ce qui est sûr, c'est que ce spectacle-là. C'est un spectacle sur lequel je me suis posé beaucoup de questions. J'ai eu le besoin de m'adresser différemment au public. J'ai eu le besoin aussi. J'avais commencé à prendre un tournant sur le spectacle soi-disant, le spectacle précédent, où je réalisais moi-même que ça faisait déjà 10 ans que je faisais ce métier. Et puis celui-là, en fait, ça part d'un constat qui est très simple. C'est que j'ai réalisé que chez moi, il n'y a pas de miroir, que je ne supporte pas les miroirs et que, en fait, j'ai beaucoup de mal avec mon image. Dès que je tombe sur moi par hasard à la télé, je zappe direct. Dès que je tombe par hasard sur moi dans un film, je zappe direct. Et je me suis dit, est-ce que c'est un truc d'artiste ou est-ce que c'est un truc...
Moi,
ouais. Du coup, j'ai appelé Gad Elmaleh, je lui ai demandé si c'était la même chose pour lui, et il m'a dit, il m'a dit, moi, chaque fois que je tombe sur toi, je zappe direct aussi.
si je passe un magnéto de vous il y a 10 ans, vous allez pas regarder?
En fait, j'ai sincèrement, je sais pas comment ça s'appelle, mais j'ai du mal avec ça.
Alors on va falloir, c'est vous qui c'est pour un portrait de MC, vous racontez que vos cousins voulaient devenir astronautes et vous humoriste.
J'ai fait tellement de castings où on m'a têche, tellement. Tu peux pas compter tellement j'en ai fait. Quoi. Tellement de trucs où j'y étais avec tout l'espoir du monde en moi, tu vois, en me disant ça y est, cette fois je connaissais mon texte, j'y allais, truc. Pour tout, hein, la télé, le ciné, le truc, tellement de fois je me suis dit allez, putain, il faut que ça le fasse. En plus, j'ai vu qu'il y avait des vues dans la salle.
Et pour que ça le fasse malgré tout, Kevin a un plan B. Créer un spectacle où il sera l'unique vedette. D'où le fameux cahier à blagues, coécrit avec ses copains.
Remontez-moi ce pantalon, avec tes petits schémas que tu m'avais fait sur on baisse le pantalon en moins.
Vous n'avez pas zappé, hein.
C'est mignon, ça.
Ouais. J'ai du mal avec ça. Et en fait, j'ai commencé à travailler là-dessus.
Et chez vous avez zéro miroir.
Aucun miroir.
Comment vous vous rasez?
À part dans la salle de bain, mais même dans la salle de bain, je sais pas comment expliquer, je l'évite, quoi. J'ai du mal avec ça. Et donc, je me suis dit qu'il y avait peut-être un truc plus intéressant à fouiller là-dedans. Et donc, c'est un spectacle qui aborde des sujets que j'aurais jamais abordés à cette époque-là. Je parle de mon rapport aux femmes, je parle de psychologie, je parle d'écologie, je parle de harcèlement scolaire. J'étais en surpoids quelques années avant ce documentaire. Je pense que j'en ai beaucoup souffert après coup. C'est très étrange. Parfois, on reçoit des insultes à l'école et on se dit « Ouais, ça va, je m'en fous, tu vois pas, c'est pas très grave. » En fait, ça a un impact sur vous plus tard. J'ai réalisé qu'il y avait des moments où dans les films, je me trouvais super gros. Et puis ensuite, en voyant les films plus tard, je me disais « En fait, c'était pas tant que ça. » Et donc, il y a un truc psychologique qui est super puissant. Je crois que c'est le spectacle le plus... introspectif, carrément.
Vous avez mis du temps à vous accepter quand même physiquement, et en fait, ce qui vous a sorti, ce qui vous a aidé, c'est l'humour.
L'humour. Du frisage, ouais, vous...
Non, mais vous avez compris qu'en faisant rire, les autres faisaient abstraction de tout le reste et donc de votre apparence, parce qu'apparemment, vous aviez beaucoup de brimades.
Ouais, exactement. L'humour était un moyen de m'échapper, l'humour était un moyen de dire tout ça n'est pas très grave, en fait. Et le fait, je crois, d'avoir subi des moqueries très jeunes m'a aussi beaucoup aidé, pour le coup, à vivre ce métier. C'est-à-dire que c'est un métier où, quand tu t'exposes, y a des gens qui sont très violents. On parlait de Twitter tout à l'heure dans le Vu. Ouais. Moi, sur Twitter, les gens, ils me massacrent constamment, et parfois pour rien. Parfois, je dis bonjour. Bonjour ? Bonjour ! Ah, t'es sérieux, toi, tu dis bonjour ! Donc, je me dis, en fait, si je le vis bien aussi aujourd'hui, et si je suis à l'aise avec ça, c'est aussi parce que je l'ai vécu jeune et que je me dis, c'est cool, quoi. C'est mortel de plaire à plein de gens. Et c'est mortel qu'il y ait plein de gens aussi qui m'aiment pas. Ce qui compte, c'est de faire son truc et d'être à l'aise avec. Et je crois que c'est le spectacle, pour le coup, où je suis le plus à l'aise, quoi.
Et vous rentrez le ventre, là ?
En fait, j'ai été voir quelqu'un qui m'a dit, vous le faites constamment, sans vous en rendre compte. c'est très mauvais pour la respiration. Et j'ai dit non, non, mais là, je le fais pas. Il m'a dit respirez, je respire. Et il me dit vous le faites là.
Non, mais faut expliquer parce que vous dites donc depuis les moqueries adolescents, parce que vous étiez légèrement en surpoids, vous rentriez le ventre et depuis vous arrêtez pas de le faire.
Constamment, ouais, ouais, constamment. Et du coup, je fais des travaux, un travail de respiration avant de dormir. voilà, parce que ça m'a été imposé, parce que j'ai commencé à faire de l'asthme et tout ça juste à cause de ça, quoi, parce que je rentre le ventre constamment. Mais c'est que c'est ça qui est génial et fascinant en même temps, c'est qu'on est tous faits de nos frustrations d'enfance et d'adolescence. C'est-à-dire que moi, je pense que si j'avais eu l'enfance du beau gosse au lycée à qui tout réussit, j'aurais peut-être jamais fait ce métier. Et en même temps, peut-être que je rentrerais pas mon ventre aujourd'hui. Donc on a tous les défauts et les qualités de la manière dont on s'est construit, quoi.
Ben moi, je traduis ça en Yannick Noah, je vous dirais que la vie, c'est un toboggan. Avec des hauts et des bas, parce que ça, c'est l'un des messages d'un des titres de l'album, La Marfée. C'est celui que vous allez nous interpréter dans un instant. Et c'est toute votre philosophie, ça. Allez, la vie, c'est un toboggan, quoi. Il faut se laisser...
On est sur le toboggan, en tout cas. Voilà. Enfin, du mauvais côté, là. On est qu'en train de partir. Donc, il faut en profiter, parce que tout ça va tellement vite. De très beaux souvenirs, mais des moments difficiles qui vous renforcent, en fait. Parce que s'il n'y a pas de moments difficiles, on ne grandit pas. Des défaites qui font mal et qui font rebondir. Et puis, ben, pour arriver à un moment en se disant que ben, en fait, tout ça est quand même pas mal et qu'on est quand même pas mal ici, on est pas mal lotis et il faut juste en profiter, quoi.
Et ça donne un super titre que vous allez nous interpréter dans un instant sur la scène de C'est à vous. Le temps de vous installer, Yannick, c'est Zoé Bruno, GTA ça. On passe à table, nous.
Ah bah avec plaisir.
Pour assister au concert privé de Yannick.
GTA ça. Ah, mais t'as l'air bien, hein? Ça marche, la méditation, on dirait.
Ouais, bof. J'ai dormi avec un mec que je connaissais pas.
Oh, la chance. J'en ai marre de dormir avec le même, moi.
C'est stressant, quand même. Hein. J'aurais dû le virer après le sexe.
Ah. Y'a quelqu'un? Allô? Y'a quelqu'un?
En fait, c'était mon ventre que j'entendais. Alors, j'ai commencé à psychoter. Je savais plus comment respirer et j'avais un acouphène dans les poumons.
Oui, t'as fait une bradycardie sinusale aussi, non?
C'est quoi, ça, encore? Tu dors.
Qu'est-ce qui se passe?
Je crois que je suis en train de faire une crise cardiaque.
Si tu faisais vraiment une crise cardiaque, tu serais déjà morte. Allez, rendors-toi. Au pire, tu mourras dans ton sommeil. Oh. Ouais, qu'il n'y a rien de plus beau que de mourir dans son sommeil.
Ouais, elle a raison, hein.
Mais du coup, pour me rassurer, qu'est-ce que j'ai fait?
De la méditation.
N'importe quoi, toi. Je suis allée sur Internet.
Non.
Je suis en train de mourir et toi
non,
tu t'en fous.
Non.
Je suis en train de mourir et toi tu t'en fous. Je suis en train de mourir et toi tu t'en fous.
Non, calme.
Je suis en train de mourir, toi tu.
Allez, calme-toi. Arrête. Bien. Excuse-moi, j'ai crié, excuse-moi. Au clair de la lune, mon ami Pierrot.
J'ai tellement pleuré que je me suis endormie d'épuisement. Lui, il a eu une montée de tension, il a fait une insomnie. Et le lendemain matin, au petit-déj...
Oh, mais regardez-moi cette marmotte.
J'en connais un qui a fait une sacrée grasse mat.
Oui, oui, bon, à part ce grain de beauté à surveiller, tout va bien.
Ce quoi? De quoi tu parles? Tu l'as vu sur quel bras? Dis-moi.
Oh. Oublie ce que je t'ai dit. Tout va bien.
J'étais à ça de plus faire de crise d'angoisse. Oh, je me sens pas bien.
Ah. La Marfée, c'est le 12e album de Yannick Noah. Il est disponible depuis le 21 octobre. Yannick qui était en tournée dans toute la France et qui s'achèvera les 12, 13, 14 décembre à l'Olympia à Paris. Mais d'abord, sur la scène de C'est à vous, la vie, c'est maintenant. C'est maintenant, Yannick.
J'ai vu la mer au creux des vagues, ça n'allait pas. Le cœur serré, couler les larmes, ça n'allait pas. J'ai fait la guerre au vague à l'âme, sous l'eau, sous les d'être comme ça. J'ai vu la terre tourner sans moi, ça n'allait pas. Tu m'as dit pas se changer d'air et ça ira. Fais de la place à la lumière et ça ira. Tu m'as dit toi qui m'as connu, rire aux éclatants que j'ai pu. Ce que j'attendais d'une amie et tu m'as dit la vie c'est maintenant, on n'a pas le temps. Pas de regret ni de rancœur, la tête ailleurs, la tête ailleurs. La vie c'est maintenant, on voit les choses en grand. On dégomme la douleur, mais y du cœur, mais y du cœur. La vie c'est maintenant. La vie c'est maintenant. L'été fait rage dans tes yeux, sois sûr de ça.
Sois sûr de ça.
Autant de courage pour deux, sois sûr de ça.
Sois sûr de ça.
L'hiver est de passage, c'est pour mieux tendre les bras. Se rassurer quand c'est trop dur, sois sûr de ça. La vie c'est maintenant, on n'a pas le temps. Pas de regrets ni de rancœur, la tête ailleurs, la tête ailleurs. La vie c'est maintenant, on voit les choses en grand. On dégomme la douleur, mais y du cœur, mais y du cœur. La vie c'est maintenant. La vie c'est maintenant. On n'a pas le temps. La vie c'est maintenant. Et quand ça va, dis-le-moi, dis-le-moi. Et si ça va, hausse la voix, hausse la voix. Et quand ça va, moi ça me va, moi ça me va. C'est aussi ça, des amis pour moi. La vie c'est maintenant, on n'a pas le temps. Pas de regrets ni de rancœur, la tête ailleurs, la tête ailleurs. La vie c'est maintenant, on voit les choses en grand. On dégomme la douleur, mais y du cœur, mais y du cœur. La vie c'est maintenant. La vie c'est maintenant. On n'a pas le temps. La vie c'est maintenant. La vie c'est maintenant.
Yannick Noah accompagné de Nicolas Payet à la guitare, Hervé Koster à la batterie, François Gibault à la basse, Julien Agazard au clavier, Guillaume Meyongo choriste, accompagné de Valérie Bellinga, choriste aussi. Merci à tous.
Presque voilà. Tous pieds nus.
Bravo. Et moi, j'ai une solution. Les 19 degrés imposés, là, cet hiver. Bah, on n'aura pas froid si on met du Yannick Noah.
On danse.
Ah non, vous avez réchauffé l'atmosphère d'un coup, là.
Génial. J'adore.
Un peu de live, quoi.
Ça a même réchauffé... un peu de live. Ça a même réchauffé les plats de Christophe Maury, qui est toujours très inquiet de servir des plats tièdes.
Oui.
Non, non, c'est bon, tout va bien, Christophe. Donc, un mélange terre-mer.
Oui, exactement, avec de l'esturgeon bio de Neuvik, qui est le premier esturgeon bio en France, aujourd'hui, avec un jus d'étrille. Et une mousseline avec du safran et des pieds de cochon rôtis.
Merci beaucoup.
Et je suis particulièrement touché parce que c'est Zaza qui a fait le logo de mon établissement.
Sérieux ?
Ouais.
Ah, ça alors.
Qui est Zaza ?
C'est ma petite sœur.
Bah oui.
Ah,
c'est ma petite sœur. Alors, mais ça, alors
ça
que c'est la surprise.
Encore plus, quoi.
Ah ouais.
C'est un truc de dingue.
Non,
c'est le monde super, est minuscule. Ouais. Le monde est minuscule.
Ben voilà. C'est moi qui ai pêché les surjoints. Une connexion qui est assez dingue. Quoi.
Super. Et tout est là dans une voilà. C'est magnifique. Pourtant, merci, cher Christophe,
on
à demain.
On jamais exprès. Hein, on arrive.
Bravo, Christophe, merci.
Yannick, Kev ne l'avait pas oublié, 11 fois personnalité préférée des Français, à égalité avec Jean-Jacques Goldman, avec lequel vous êtes lié à plein d'autres titres, puisque c'est son frère Robert qui a écrit les chansons de cet album, comme il y a 22 ans, non ?
Ils ont, bon, disons que c'est... Enfin, je leur dois, Robert, je lui dois...
D'être devenu un chanteur, quoi.
Oui, oui, il m'a donné, voilà, il m'a écrit des chansons sur mesure, voilà, j'ai pu vivre de mes chansons dans le sens de, c'était des, ces mots sont devenus des thérapies. Il a écrit des chansons sur mon grand-père, il a écrit des chansons que j'aurais pas forcément osé chanter, il m'a donné ce courage-là. Et j'ai été entendu. Et c'est vraiment grâce à lui, toute l'équipe, bien sûr. Et puis ben, Jean-Jacques, toujours derrière, discrètement. Quoi.
Alors, vous êtes tellement copains, Robert, Jean-Jacques et vous, que vous jouez au tennis ensemble. Vous dites que Jean-Jacques, avant de se lancer dans la musique, il travaillait comme cordeur de raquettes, ce que j'ignorais. Qui gagne quand je joue avec Jean-Jacques?
Jean-Jacques, ben, disons qu'ils étaient, ouais, ils aimaient beaucoup, beaucoup vraiment le tennis, depuis très, très longtemps. Et Jean-Jacques, oui, pendant les restos, là, il y a quelques années, quand on était sur place pendant quelques jours, ben, on était allé taper quelques balles.
Et alors?
Mais c'est amusant parce que, je sais pas, Jean-Jacques tel que je le vois, enfin avec toute l'admiration quand je le vois sur scène et le voir sur un cours, c'est tout d'un coup, c'est autre chose. Et il est très, il est bagarreur en fait. Enfin voilà, Jean-Jacques, c'est la classe et la générosité, mais sur le cours, c'est un bagarre. Et bon, et j'aime beaucoup, comme en quoi, gros, même pour arriver jusque-là, il faut bosser.
Exactement.
Et pour arriver à son niveau de tennis, il a beaucoup bossé.
Le tennis, on en parle parce que Kev, on est... fou,
j'adore
absolu,
ça.
Notamment fan du joueur Stanislas Wawrinka, qui a été producteur de maison de retraite.
Exact,
il joue à Bercy en novembre dernier et vous faisiez tellement de bruit pour le supporter qu'il y a eu un rappel à l'ordre de l'arbitre de chaise.
Un problème, c'est que quand je vais le voir, c'est au-delà d'un ami, c'est vraiment mon frère dans la vie, on se parle quasiment quotidiennement. C'est un mec qui est toujours là pour moi et je serai toujours là pour lui. Et quand il joue, j'ai l'impression que je suis sur le terrain. J'ai ce côté bagarreur aussi, malheureusement. Et donc parfois, je m'emporte et là, je me suis un peu emporté.
Mais c'est comme ça que vous êtes rencontrés, parce qu'il était en finale de Roland-Garros en 2017.
Exact.
Il perdait.
Il perdait contre Rafael Nadal. Et
vous
à un
étiez
moment donné,
le seul à le supporter.
Oui, en fait, il faut savoir que les Français sont très fans de Rafael Nadal, mais aussi de Wawrinka. Mais ce jour-là, il y avait quand même beaucoup de fans de Nadal qui faisaient du bruit. Et je dois reconnaître qu'à ce moment-là, je ne connaissais pas grand-chose au tennis, mais mon pote me dit « Wawrinka n'a aucune chance ». Et moi, j'aime les gens qui n'ont aucune chance. On aime les outsiders dans la vie. Et donc, je commence à crier « Stan, allez, on va pas te laisser avoir par cet espagnol !» Et en fait, lui, il me voit sur le côté, il commence à se marrer. Et donc, mon pote me dit « Mais tais-toi, il va perdre le match à cause de toi ». Je lui dis « Frérot, il y a 6-0, 6-1, il ne va pas le perdre à cause de moi, a priori ». Et donc, je lui envoie plein d'énergie. Et à la fin du match, c'est le premier message qu'il m'a envoyé. Il m'a dit « Merci, j'ai perdu, mais tu m'as fait marrer, c'était un super moment. »
Il était mort de rire intérieurement, d'entendre un gars qui lui dit « Allez, tu peux le faire !» à 6-0.
Ah ouais. Et puis j'étais à l'endroit où il prenait sa serviette, donc dès qu'il venait chercher la serviette, je lui disais « Stanislas, on lâche rien n'est perdu !» Il se disait « Mais c'est qui ce fou, quoi ?»
Mais c'est génial, c'est génial d'être supporter à ce point-là.
Ouais,
prochain match, je vous invite.
À part c'est terrible ce joueur, t'imagines, il gagne 3 grands chelems, mais il est de la même génération Federer.
Et de la même nationalité, surtout.
Et de la même nationalité, c'est incroyable. C'est un grand champion, c'est un gars super, enfin, tu le connais, c'est un gars vraiment bien. Mais voilà, il est derrière l'autre,
moment,
là, quoi. Federer, qui a tout gagné.
C'est
terrible, t'imagines.
Mais Yannick dit un truc très juste.
Suisse, personne, enfin, voilà, il y a eu cette génération où il y a, entre Roger, qui en a gagné, je ne sais pas, une cinquantaine.
Nadal et Djoko, ouais.
Non, mais en Suisse, et puis voilà, Stan, bref.
Ce qui est vrai, c'est vrai que ça ne se joue à rien. Le gars était belge, c'était une légende en Belgique.
Ça, ah ouais.
Il était français, c'était une légende en France. Il se trouve qu'il est
suisse.
Il ne
faut pas exagérer.
Et que
la légende du tennis en France, c'est
Yannick. Tu veux dire qu'il m'aurait rayé?
Non, personne ne
te rayé.
Bon, La Marfée, je me permets de vous l'offrir. C'est l'album de Yannick, vous ne l'aviez pas.
Ah non, je
et la version
plaisir.
Vinyle. Hop,
avec
non,
plaisir.
C'est le contraire. Merci.
Oui,
merci
voilà.
À vous.
Donc, je rappelle que vous serez à l'Olympia les
12,
dates.
13 et 14 décembre.
Voilà, merci, cher Yannick, d'être venu.
J'y serai, moi, en tout cas.
Réchauffer le plateau de C'est à vous. Miroir, c'est en tournée dans toute la France à partir de février 2023 au Dôme de Paris les 17, 18, 19 avril 2023. Et demain, le lancement du Téléthon auquel participe Bertrand Chameroy.
Ah, génial.
Et
oui,
il sera en duplex de
Cassis.
De Cassis.
Trop bien.
Voilà, donc 36-37 dans tous les sens.
À fond.
À fond.
À fond.
À fond. Et on conclut par les actualités de Bertrand.
Bonsoir, à la une de ce 1er décembre, ça y est, il est temps d'ouvrir la première case du calendrier de l'Avent, enfin si vous en avez acheté un,
oui.
Et si vous souhaitez faire de petites économies, voici l'astuce du jour de Papy Truc.
J'attendais que les prix baissent, parce que plus on avance vers Noël, plus les prix baissent, donc après j'en achèterai un, mais je ferai un calendrier d'après.
Voilà. Achetez votre calendrier de l'Avent le 24, vous boulottez toutes les cases de 25 et puis les cloches de Pâques en juillet, c'est moins cher et c'est toujours aussi bon. Le passage au mois de décembre qui ramène enfin, on en voulait tous, un peu de féerie dans les JT comme avec ce sujet consacré au manège. Oui, Émilie, dans le 13h de TF1, l'occasion de découvrir les premières images du biopic de Calamity Jane.
Qu'est-ce qui se...
Mais remonter en selle...
Je vais vous aider.
...peut s'avérer plus difficile que prévu.
Bah, ce sont les premières images. Hein, voilà, c'est les premières images de tournage. Ça s'annonce épique. Et avec Noël, l'arrivée de ces marchés, de leur patinoire, message de service. Si vous êtes en train de patiner et que vous apercevez une caméra de TF1, par exemple, restez focus sur les patins. Sinon, ça peut très mal se terminer.
Mais ça a moins d'impact qu'une...
Au bordel, il y a TF1, je vais leur parler. Ah bah oh, wow, 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 wow. Nous avons eu la famille, il va bien. Il n'est pas encore retombé, mais il va bien.
Ah oui, il fait une tournée mondiale.
Une tournée mondiale, exactement. Autre bonne nouvelle concernant le courant électrique, ce matin, le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, s'est montré rassurant.
On n'est pas en train d'annoncer aux Français qu'il y aura des coupures. Hein. Le message qu'il faut entendre, c'est pas « il n'y aura plus de jus ». On n'est pas en train de dire aux Français qu'on aura des coupures cet hiver.
Et ça, c'est une bonne nouvelle. Il n'y aura pas de coupures. Enfin...
Et ça ne veut pas dire qu'il y aura des coupures. Ça veut dire, attention, demain, ça va être tendu. Et donc, on pourrait être amené à rencontrer des situations obligeant à couper pendant une heure ou deux heures l'électricité.
Non. Il n'y aura pas de coupure, mais il y aura peut-être des interruptions momentanées réduisant ou rendant impossible l'usage. Heureusement, tout est prévu pour éviter d'en arriver là. C'est en regardant le 13h de France 2 que je me suis rendu compte que plus que jamais, je voulais redevenir un enfant, car les Playmobil version adulte, c'est vraiment une déprime intersidérale. Alors les adultes, on a envie de jouer, ça tombe bien. Découvrez le nouveau jouet de Sébastien Sarrazin d'Enedis.
En fait, on va commencer par couper une partie des clients. C'est-à-dire que là, on voit qu'il y a une ligne électrique qui est coupée avec l'ensemble des clients de ceux qui sont coupés. Ça va durer 2 heures.
Sympa.
Après ces 2 heures, en fait, on va à la fois rétablir les clients et à la fois couper une ligne électrique. Donc là, on voit cette ligne qui est coupée. Et puis quand on arrive à la fin du délaissage, eh ben, en fait, c'est terminé. L'ensemble des clients sont réalignés.
En avant le foutoir.
Sympa. Tu veux le même, je te le commande. Si tu as été
Patrick,
cette
il va tout nous couper.
Mais non, 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 mais on ne va pas tout couper parce que non. Je pour éviter d'en arriver là, justement, Olivier Véran l'a dit, il existe des solutions de petits gestes, tout simple.
Le petit effort, c'est de dire, si à 19h, tout le monde n'allume pas sa plaque de cuisson en même temps, où tout le monde ne se sèche pas les cheveux en même temps. Enfin, les appareils qui consomment beaucoup d'électricité, si on décale un peu à 19h45 ou à 20h, ça passe.
Alors,
pas
de sujet. Je vois l'idée. Pas à 19h, sauf que Véran a conseillé une autre heure. Donc si tout le monde décide de se sécher les cheveux à 19h45, ça ne change rien au problème. Heureusement que je suis là pour prendre les choses en main. Je crée tout de suite, c'est beaucoup trop tôt pour ce son, je crée le groupe WhatsApp France. J'ajoute tous les Français. Salut à tous, merci d'indiquer à quelle heure vous avez prévu de vous sécher les cheveux. Son. Voilà, si chacun répond, on aura une idée plus précise du séchage des cheveux dans ce pays. Une bien belle séquence à retrouver en replay dès maintenant sur France.tv. Dans le reste de l'actualité, la nouvelle revue du moment à New York, la descente d'avion de Brigitte et Emmanuel Macron. C'était le Moulin Rouge sur le tarmac. Regardez cette synchro dans les jambes.
Ah oui.
Les jambes sont synchro. C'est synchro, mais ça dure 1000 ans. Madame porte des talons. La dernière visite aux États-Unis pour Emmanuel Macron, c'est en...
Pourquoi ?
C'est factuel, avec des talons, c'est vrai, plus de temps à descendre les...
Oui, on marche moins bien.
C'était
avec
synchro,
talons.
C'est ce qu'on retient de l'info.
Une belle séquence a également retrouvé.
Ah oui, oui. Voilà.
N'hésitez pas.
Une belle intervention.
Je disais donc que la vie peut paraître longue parfois. La dernière visite aux États-Unis pour Emmanuel Macron, c'était en 2018. Et entre il y a 4 ans et hier, rien n'a trop changé.
Bonjour à toutes et tous.
Bonjour à toutes et tous.
Et pardon, nous vous avons fait attendre.
Chers amis, pardon de vous avoir fait attendre.
Toujours en retard. Et ce n'est pas misophone, ça. Face à la communauté française de Washington, le président a salué l'entrée de la baguette, enfin la baguette au patrimoine immatériel de l'UNESCO, avec une tirade très double sens. Excusez-moi, il a fait exprès, donnez-moi votre... Il a fait exprès.
Mais je veux dire ici que dans ces quelques centimètres de savoir-faire passés de main en main, il y a exactement l'esprit du savoir-faire français.
Tous ces centimètres qui sont passés de main en main, c'est l'esprit français, c'est fait exprès. Après ça, il a joué... Allez, non, on a déjà assez de séquences en replay, passons au 14. Ensuite, Emmanuel Macron a rendu visite à Papy Biden, qui, lui, pétait la forme.
Les gens du monde entier, journée mondiale de lutte contre le sida,
Voilà, en pleine forme, il est si vieux. Parmi les membres de la délégation française, de la star, que dis-je, la grosse resta, Benjamin Millepied, Thomas Pesquet, Sophie Adnot, Claude Lelouch, et ce n'est pas tout.
On aperçoit aussi Jean-Luc Bourlange, qui est député français, député Modem.
Eh ouais, Jean-Louis Bourlange aussi était dans la place. Une visite d'État couverte par les chaînes d'infos qui disposaient de beaucoup d'infos.
Alors il va y avoir évidemment les hymnes. Pourquoi 21 coups de canon, Catherine, ensuite, on sait ou pas? Ça correspond à quoi?
Non, écoutez, je ne sais pas. C'est traditionnellement, ouais. Effectivement, ça a toujours été 21, mais l'origine de ce nombre spécifique, vous nous laissez 5 minutes, on cherche et et on vous le dit.
Exactement.
Laissez-nous. On va sur Google, on vient vers vous sous 8N. Alors autant pour les 21 coups de canon, ils ne savaient pas, mais alors pour le reste, ils étaient surrenseignés.
Côté menu, le voici. Le menu, du homard en entrée, du bœuf en plat de résistance, plateau de fromage, fromage américain, comme tout le reste du menu d'ailleurs, et en dessert, un gâteau à l'orange.
D'accord, mais est-ce qu'on peut être plus précis sur le frometon, s'il vous plaît?
Alors, il y a du blue cheese, qui paraît-il, la Maison Blanche le rappelle, a été championne d'or au championnat du monde de fromage.
Pas vrai.
Il y a un autre fromage qui vient du Wisconsin, et puis il y a un fromage de chèvre qui vient de Californie qui sera servi.
Mais pas de Babybelle ni de Loupérac. Très déçu. Mais rassurez-vous, concernant le dessert, on a aussi des infos. On ouvre tout de suite le dossier Viennetta.
On a un petit gâteau à l'orange avec des poires rôties, une sauce au citron, de la crème fraîche, mais en glace de crème fraîche. Donc comme pendant le dîner avec Donald Trump. Et ce sera servi avec une très tendre meringue et parfumée au citron. Et je vous passe les détails.
Oui, parce qu'on n'en a pas donné suffisamment. On les passe. Le détail qui manquait, c'était une compote de pommes et une langue de chat pour Joe Biden. Et ce soir, Non, mais c'est vrai, hein, c'est dans le dossier.
Pardon.
Non, c'est pas du tout. Ce soir, c'est bal de promo, soirée dancing pour Emmanuel Macron et Joe Biden. Selon Laurent Saïm, celui de François Hollande était méga festif.
Je peux vous dire que j'ai vu un ancien ministre français se mettre sur une chaise pour danser au moment où Mary G. Bridge était là.
Allez, balancez le nom.
Non, je ne vais pas balancer le nom.
Mais alors, quel ministre a bien pu, s'enjailler à l'époque sur du Mary G. Bridge? Vu que Laurent Saïm ne veut pas lâcher l'info, tournons-nous vers celle qui, à l'époque, avait donné le nom, Laurent Saïm. Elle l'avait déclaré à France Info, il s'agissait de... Laurent Fabius.
Mais non.
Maintenant, je vous laisse monter la musique et imaginez Laurent Fabius debout sur une chaise, danser là-dessus. L'info revient demain. Bonne soirée. Bon bal de promo à la famille Biden.
Bravo Bertrand.
On l'a tout fait.
Merci beaucoup, merci cher Kev, merci Yannick.
Merci à vous de nous avoir reçus, c'est toujours un vrai plaisir cette émission.
Bah, c'était un réel plaisir de vous avoir tous les deux présidé. C'est mieux qu'un dîner d'État à la Maison Blanche. C'est ça que je voulais dire.
Il y a des phrases sans fin,
il y a des petits ratés, mais c'est ce qui fait un peu notre
charme.
Notre charme. Merci de finir mes phrases. Tout de suite sur France 5, la soirée science grand format de Mathieu Vidard. Ce soir, Terres extrêmes, les Émirats face au désert. Et si vous voulez bien vous tourner vers Sébastien, qui danse, il était comme un dingue pendant toute la chanson de Yannick. Pour vous saluer, pour vous souhaiter une excellente soirée. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Ciao.
Merci d'avoir écouté ce podcast de France Télévisions. Pour ne rien rater de C'est à vous en audio, vous pouvez vous abonner à tous nos podcasts sur votre plateforme d'écoute favorite dans la rubrique C'est à vous. Et en vidéo, le replay bien sûr, c'est sur France.tv. À très vite.